Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Maïder Gérard, mais aussi Marguerite Caton et Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Élise Le. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
On va parler ce matin du Soudan. Hier, après 30 ans de pouvoir, Omar el-Béchir a démissionné. Alors que les manifestations s'enchaînaient depuis plusieurs mois, le président soudanais, qui était arrivé au pouvoir en juin 89 par un coup d'État, a finalement été contraint de partir. Dans la foulée, les autorités ont annoncé la libération de prisonniers politiques et un conseil de transition a été mis en place par les militaires qui ont mis à sa tête le ministre de la Défense, Awad Ahmed Ben Aouf. Que va-t-il se passer maintenant? Se dirige-t-on vers une véritable transition politique ou assiste-t-on à un ultime effort destiné à permettre à la junte de conserver le pouvoir? Les manifestants vont-ils se contenter du départ du tyran? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. Christian Delmet, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes ethnologue, chercheur associé au Centre d'études des mondes africains. À vos côtés, Anne-Laure Mahé, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes vous chercheuse Afrique de l'Est à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. On va parler du Soudan dans une quinzaine, vingtaine de minutes. D'abord, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Long. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient d'Ukraine. C'est Benoît Vidkine. Bonjour, Benoît.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste au Monde. On va parler avec vous de l'Ukraine. Le 31 mars dernier, lors du premier tour de l'élection présidentielle, Volodymyr Zelensky, un humoriste de 41 ans, est arrivé largement en tête des suffrages face au président sortant, Petro Poroshenko. Alors, c'est pas complètement une surprise parce qu'effectivement, les sondages prédisaient qu'il allait arriver devant, mais quand même, le profil a de quoi surprendre. Je disais humoriste, acteur d'une série à succès, candidat en campagne grâce à ses spectacles, grâce aux réseaux sociaux. Zelensky n'a pas vraiment brillé par la clarté de ses propositions politiques, mais peut-être que vous allez nous éclairer sur ce point. Alors, c'est un candidat qui pose des questions, notamment parce qu'il a des liens aussi avec un oligarque, on y reviendra. On va essayer de comprendre un peu ses intentions pour le pays. Mais d'abord, première question, Benoît Vidkine. Le deuxième tour de la présidentielle, c'est dans une dizaine de jours. Est-ce qu'il peut gagner, Zelensky?
Il peut gagner, il est même en bonne voie pour le faire. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, l'Ukraine est assez friande de sondages, puisqu'elle a une scène politique très vive, très dynamique. Depuis le premier tour où ce Zelensky avait fait un score, son profil surprend, mais son très bon score du premier tour avait surpris également.
30%. Hein.
C'est ça, 30% contre 16 à son poursuivant et son adversaire du second tour, le président sortant, Poroshenko. Et depuis ce premier tour, il n'y avait pas eu de sondage. Alors on a eu une salve hier et qui montre que Zelensky est très bien placé, est en tête avec une quinzaine de points. Une quinzaine de points d'avance sur son adversaire. Il y a encore beaucoup d'indécis, mais oui, il est bien placé.
Comment se fait-il qu'un homme sorti de nulle part ou quasi est en capacité aujourd'hui de devenir président de l'Ukraine? Et qu'est-ce que ça vous semble révéler aussi peut-être de l'évolution du paysage politique et de ce qu'au fond les Ukrainiennes et les Ukrainiens attendent de ce président?
La réponse est multiple, évidemment. Le fait qu'il soit, comme vous dites, quasi sorti de nulle part, c'est l'explication principale. Ça va pas vous surprendre, c'est un espèce de ras-le-bol des visages que l'on connaît, avec un jugement sévère sur ces visages. À l'échelle des 30 ans d'indépendance de l'Ukraine, ce jugement il est assez justifié, c'est-à-dire que la classe politique n'a pas vraiment mérité. Ensuite, pour s'agissant des 5 dernières années de Poroshenko, on peut être plus nuancé, mais le fait est que une bonne part des électeurs et des citoyens considèrent qu'il n'a pas rempli la mission, une des missions pour laquelle il avait été élu principalement, qui est celle de la lutte contre la corruption. C'est ce qui lui est principalement reproché. Donc sur ce terrain-là, sur ce terreau-là, l'arrivée d'un nouveau visage est pas forcément plébiscitée, mais disons qu'elle est favorablement, il part avec un a priori favorable. Et ensuite, il a des arguments. Sa jeunesse, son passé professionnel, c'est-à-dire qu'il n'a effectivement aucun engagement public politique connu, il n'a que pour lui son passé professionnel, ses spectacles, vous l'avez dit, dans lesquels il ridiculise précisément depuis une dizaine d'années ces hommes politiques qui se succèdent au pouvoir les uns après les autres. Et un dernier élément sur lequel il joue encore plus que sur ses spectacles, c'est cette série télévisée Serviteurs du peuple, qui est un carton phénoménal en Ukraine, dans laquelle il interprète un homme justement venu de nulle part qui devient président. Donc il joue alors mais de façon totalement assumée, c'est-à-dire que son parti s'appelle Serviteurs du peuple du nom de la série, les deux images se mêlent complètement, de façon complètement volontaire, c'est une façon d'embrouiller l'électeur et de lui dire, et l'électeur, je pense qu'une bonne partie ne sait pas réellement pour qui elle vote. Est-ce qu'elle vote pour Zelensky ou pour Khorobotko, qui est le personnage de fiction interprété par Zelensky.
Et d'ailleurs, justement, ce passé d'acteur, il joue beaucoup avec. Je crois qu'à la veille du vote, vous racontez ça dans un de vos papiers, la chaîne de télévision qui justement diffusait cette fameuse série télé a diffusé un documentaire sur l'élection d'un certain Reagan en 1980, lui aussi tient acteur à son époque. Jusqu'où est-ce qu'on peut établir un parallèle entre les deux?
C'est effectivement assez drôle cette diffusion.
C'est Zelensky qui faisait la voix off.
C'est Zelensky qui faisait la voix off pour que vraiment les plus obtus, s'ils n'avaient pas compris, comprennent qu'on parle bien de ce qui allait se passer le lendemain, à savoir le premier tour. Le reste de la journée, c'est quand même significatif, le reste de la journée sur cette chaîne de télévision contrôlée par cet oligarque Igor Kolomoïski, vous disiez, c'est une des choses qui questionne, ce sont ces liens troubles. Diffuser les spectacles de Zelensky toute la journée et un petit encart à un moment, ce documentaire sur Reagan. Comme tous les pays, pas très sûrs d'eux, on va dire, les Ukrainiens aiment les comparaisons. Alors, Zelensky a aussi essayé et continue d'essayer de se vendre comme un Macron ukrainien. Mais effectivement, cette
comparaison... Il y fait référence.
Ouais. Disons que c'est même né avant son apparition, cette espèce de besoin dans l'opinion et dans les médias d'un Macron ukrainien, ce qui allait pouvoir nous sauver. Et il est effectivement ce qui s'en rapproche le plus. Donc il ne rejette pas cette comparaison.
Et est-ce que Macron le reconnaît? Parce que je vous pose la question. C'est pas tout à fait un hasard. Je trouve qu'aujourd'hui, et Petro Poroshenko et Zelensky sont à Paris. Ils vont rencontrer Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut imaginer qu'Emmanuel Macron soutienne officiellement Zelensky?
Non.
Non. Non. Alors quel est l'enjeu pour
ce que pense profondément Emmanuel Macron, je n'en ai aucune idée, mais jamais il ne le soutiendra. Ils viennent, c'est un message à destination intérieure. C'est Zelensky qui était assez demandeur pour montrer à son électorat qu'il a une stature internationale. Pour montrer à son électorat, c'est important qu'il va à l'Ouest. Alors, en réalité, c'est beaucoup le résultat d'une campagne un peu de black PR, comme on dit là-bas, menée par les gens de Poroshenko, de relations publiques sales, pour essayer de le dépeindre en suppôt de Poutine ou en personnage tellement faible, tellement manipulable qu'il pourra dans l'avenir être manipulé par Poutine. Donc là, il va à Paris pour dire, regardez, moi aussi, je parle français. Donc Poroshenko s'est greffé, ça s'est fait plus comme ça. Il n'y a pas réellement d'enjeu. Un mot sur Reagan, je vais vous le dire brièvement. La comparaison, non, elle ne tient pas, selon moi. C'est-à-dire que oui, c'est un acteur, mais Reagan a eu une carrière politique bâtie sur le long terme, progressive. Il s'occupe de la guilde des acteurs, c'est pas rien. Il est gouverneur de Californie, puis il est président. Zelensky n'a jamais rien fait de tel. Et l'autre chose, c'est que Reagan avait une idéologie. Alors Zelensky, vous disiez, il a pas de proposition claire. Il a un programme, mais c'est pas un personnage clivant. Il est clivant dans le sens où il dit que les élites doivent être balayées. Mais ça, c'est presque consensuel en Ukraine. Et pour le reste, c'est un espèce de... On peut le comparer à d'autres gens, acteurs ou pas acteurs, mais des gens venus de nulle part avec un discours assez populiste. La comparaison marche, sauf que c'est un populiste sympa, gentil, consensuel, qui prône des choses assez rassembleuses, qui ne veut pas cliver. C'est là où la comparaison quand même a ses limites.
C'est quoi des choses rassembleuses? C'est quoi le projet politique de Zelensky? Qu'est-ce qu'il veut faire de l'Ukraine?
Des choses... Il répond en termes vagues. Quand on lui demande « mais qu'est-ce que vous venez faire dans cette galère ?», il dit « je veux que mes enfants puissent grandir dans ce pays ». Merci, ça va très loin. Mais ce qu'il y a derrière ça, les gens finalement le comprennent. Alors, évidemment, c'est l'avantage de ce genre de formule, chacun y comprend ce qu'il veut. Mais ce qu'il explicite quand même un peu quand on l'y pousse, ou ce que son équipe explicite, parce que lui, vous l'avez dit, fait le pari d'être extrêmement prudent, il parle en termes relativement généraux. Mais consensuel, c'est la lutte contre la corruption, c'est de bâtir un état de droit... un état fonctionnel, avant même de parler d'état de droit. Alors les deux vont ensemble dans l'esprit des gens qui vont le soutenir.
Mais ça, tout le monde est d'accord, mais il dit pas comment.
C'est un programme très libéral.
Sur le plan économique, c'est très libéral.
Sur le plan économique, c'est très libéral. On pense, c'est la limite de l'exercice d'analyser son programme, c'est que ça tient aux gens qui ont le plus d'influence actuellement derrière lui. La grande peur, c'est que, et si ces gens-là se lassaient parce qu'ils n'arrivent pas à appliquer, aller dans le sens qu'ils veulent, et si d'autres gens venaient derrière, que parler dans l'oreille du candidat devenu président, c'est là où il y a un doute.
Alors justement, regardons qui est derrière, et visiblement, il y aurait derrière un très proche en tout cas, qui s'appelle Igor Kolomoïski, qui est le propriétaire précisément de cette chaîne de télévision qui a diffusé justement cette fameuse série qui a fait un véritable carton en Ukraine, Serviteur du peuple. C'est un homme très riche, la deuxième ou la troisième fortune du pays. Quels sont les liens entre les deux hommes? Quel est le degré d'autonomie, d'indépendance de Zelensky vis-à-vis de cet oligarque?
En réalité, on ne le sait pas. Les liens entre les deux sont avérés, leur forme, c'est ça qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que Zelensky, quand on lui pose la question, dit « c'est un partenaire de business », puisque Zelensky, en plus d'être un comédien, un acteur, un humoriste, c'est un producteur à très grand succès, grâce à, pour l'essentiel, à ses productions, mais il a même une boîte de production plus large que ça, et donc il est riche. Et donc, il passe des accords avec des chaînes de télévision, avec leurs propriétaires, pour la diffusion. Lui, il présente ça comme un simple partenariat, ajoutant même, pour faire le malin, que Kolobeski lui doit de l'argent. On n'en a aucune idée de si c'est vrai. Ce matin, alors dans cette campagne, j'allais dire campagne sale, mais là non, parce que c'est l'effet de... Ce sont des journalistes d'investigation très sérieux qui ont sorti ça ce matin. Une liste des voyages à Genève, puis à Tel Aviv de Zelensky. Genève, puis Tel Aviv, les villes où résidait et où réside actuellement cet oligarque Kolomoïski. Et c'est effectivement des voyages très fréquents. Donc le lien, il est fort. Peut-être que... Il y a globalement la vision consensuelle, c'est de dire que Kolomoïski l'a fait et l'a mis sur le devant de la scène et l'a encouragé. Ça fait assez peu de doutes. Est-ce que pour autant ça fait du candidat une marionnette? Le simple fait que cette question soit posée avec une telle insistance crée de fait des garanties. Il pourra pas de façon.
Mais il aura une influence politique, c'est fatal.
Financer la campagne, on l'ignore. A priori, non. Après, tout ce qui est financement, c'est quand même relativement opaque en Ukraine, donc on peut pas être affirmatif. Mais oui, non, vous avez raison, il aura une influence politique. Et vous avez dit que Kolomoïski, homme très riche, mais grand perdant de l'époque Porochenko, donc, et homme du passé. Donc ces deux choses mis bout à bout, on a du mal à imaginer que cet homme pousse à une réforme de la gouvernance qui implique ce qu'on disait, un état de droit, des institutions fortes, etc. Et on peut surtout imaginer que ce soit que s'il a les instruments pour pousser le jeune Zelensky, ce soit dans un sens revanchard, disons.
Mais est-ce qu'on peut dire que Kolomoïski et donc peut-être aussi Zelensky, au fond, ils font aujourd'hui partie de ce qu'on pourrait appeler un camp réformateur? Est-ce que, en tout cas, réformateur par rapport à ce qui existait avec Porochenko? Parce que la question qui va se poser aussi, c'est avec qui est-ce qu'il va gouverner, cet homme-là? Il va falloir faire des alliances, il va falloir... Bon, comment ça va se passer?
Alors, on peut pas les mettre dans le même sac. C'est-à-dire, on peut les mettre dans le même sac, dans le même camp. Mais non, ils ne sont pas tous les deux membres d'un camp réformateur. Moi, je dirais, mais c'est vraiment au doigt mouillé, peut-être que c'est naïf, mais de quand même faire confiance à une partie des intentions affichées, que oui, Zelensky est un réformateur. Ensuite, avec est-ce qu'il est manipulé par d'autres gens? C'est une question. Est-ce qu'il aura les armes pour faire ce qu'il dit? C'en est une autre. Avec qui il gouvernera? Il y a la question de avec quelle majorité politique, quel poids sur les institutions? Ça, c'est encore extrêmement incertain et ce sera un vrai problème pour les législatives en octobre, s'il est élu. Enfin, les législatives auront lieu, mais ce sera un problème pour lui s'il est élu. Et avec qui il gouvernera? L'autre partie de la question, c'est qui est dans son entourage? Pour l'instant, en majorité des gens très recommandables. Des gens qui ont un passif de réformateur certifié, à succès non, puisqu'ils ne sont pas au pouvoir, mais pas mauvais, oui.
Est-ce qu'on a une idée de sa vision du règlement du conflit dans l'Est de l'Ukraine?
Oui et non. Là, ce serait plutôt à mettre à son crédit. Il a en quelque sorte... Il dit qu'il a un plan, mais... Il n'insiste pas tellement sur la notion de plan, et c'est plutôt louable dans le sens où personne ne peut prétendre avoir un plan génial. Parce qu'il n'y a pas de solution géniale. Parce que, tout simplement, c'est une solution qui est forcément négociée avec les Russes, et en second rideau avec les acteurs locaux, les gens qui tiennent les territoires rebelles du Donbass. Et donc aucun Ukrainien à Kiev ne peut dire qu'il a une solution à imposer.
Alors je pose la question autrement, qu'est-ce qu'on sait de son lien avec le pouvoir russe?
Là, pour le coup, on va utiliser un mot qui existe en Russie, mais qui existe aussi beaucoup en Ukraine, qui est le compromat. L'équipe de Porochenko sort d'état de compromat, donc de choses compromettantes sur Zelensky dans cet entre-deux-tours. Sur le thème, il est son copain avec les Russes. Donc lui est non seulement il est faible, il sera manipulé par les Russes, mais à la base, il a des liens avec eux. Porochenko en a aussi, ça paraît un argument pas très valable. Oui, Zelensky a également du business en Russie, ses émissions cartonnent aussi là-bas. Pour autant, je doute qu'il soit dépendant des Russes. Ensuite, oui, ce qu'il esquisse pour le Donbass, c'est globalement, il fixe des lignes rouges qui sont à peu près les mêmes que ce qui s'est fait actuellement. On ne négociera pas sur le dos des territoires, on ne lâchera pas de territoire et on ne lâchera pas de population. Ensuite, il dit des choses assez vagues encore, il faut qu'on arrête de tirer. Il faut un cessez-le-feu valable. Comment est-ce qu'on y parvient? Je ne sais pas. Ensuite, il dit un plan de paix, ça passe par Minsk, mais il faut y ajouter le Royaume-Uni et les États-Unis. Qu'est-ce que ça change fondamentalement? A priori, pas grand-chose. Est-ce que les Russes l'accepteraient? A priori, non. Et sur la Crimée, là encore, il joue une carte un peu plus qui se veut plus réaliste, de dire on garde l'objectif de récupérer la Crimée, mais chers amis, je vous préviens, ça n'arrivera pas du vivant de Poutine.
Benoît Vidkine, est-ce que vous pensez que Zelensky est arrivé en tête du premier tour et potentiellement peut devenir président de l'Ukraine parce que voilà, il ne vient pas du jeu politique traditionnel, ou est-ce qu'au fond c'est d'abord et avant tout la faiblesse du président sortant qui nous conduit à cette situation-là? La question qu'il y a derrière, c'est quel bilan est-ce qu'on peut établir finalement aujourd'hui de la politique de Petro Poroshenko, à la fois sur le conflit dans le Donbass, à la fois sur les questions économiques, la lutte contre la corruption, etc.
C'est presque l'inverse. C'est-à-dire que Poroshenko, il a été et il est tout sauf faible. C'est même au contraire un président, dans l'esprit de beaucoup d'Ukrainiens, trop fort, qui, malgré le contrôle très important qu'il a sur... Alors le Parlement, il y a une nuance, c'est que le Parlement a quand même saboté une partie de ce qu'il a fait, parce que le Parlement n'était pas entièrement tenu, il fallait s'accorder en permanence. Mais le reste des institutions, il a eu un contrôle très solide. Donc il ne peut pas vraiment se défausser en expliquant... Il le peut, il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait. Son bilan, ça dépend
sur la lutte contre la corruption,
des priorités des électeurs. Ceux qui mettent en avant la lutte contre la corruption sont très mécontents. Eux-mêmes reconnaissent en général que plus ça a été fait, c'est la formule consacrée, mais qui est juste, que plus ça a été fait ces 5 dernières années que les 25 années précédentes. C'est la réalité. Pour autant, tout a été fait assez à reculons. Chaque victoire, chaque avancée dans ce sens d'une lutte contre la corruption, tout ça c'est compliqué. Lutter contre la corruption, ça ne se décrète pas simplement. Il faut avoir les institutions pour, il faut que ces institutions aient des pouvoirs, il faut que les forces qui ont envie de saboter ce travail-là soient mises de côté. Donc c'est un travail long. Ces avancées-là, elles ont été lentes. Là où le président est attaquable, c'est qu'il a à chaque fois fait à reculons, sous la pression des Occidentaux, sous la pression de sa société civile. Lui-même a toujours paru assez réticent à lâcher des miettes du pouvoir, puisque dans l'esprit de ces gens-là qui se sont formés dans les années 90, une institution indépendante, ça n'existe pas. Une institution indépendante, c'est autant d'offert aux concurrents, aux groupes concurrents, aux clans concurrents. Donc son bilan là-dessus est pas génial. C'est des gens qui mettront la priorité sur des questions de souveraineté, vont dire que son bilan est bon parce qu'il a réussi à relever l'armée et donc à contenir l'agression russe dans le Donbass, parce qu'il a mené une politique culturello-linguistico-mémorielle très volontariste d'ukrainisation de l'espace public, de réforme de l'historiographie. Ça lui revient. Il est plébiscité pour ça par une partie de l'électorat, ça lui revient sans doute en boomerang chez une autre partie de l'électorat, qui aime Zelensky parce qu'il parle russe.
Il y a des analystes qui vous disent finalement c'était un bon président de crise. C'est-à-dire que c'est vrai, on peut bien sûr critiquer par exemple les accords de Minsk, on l'a fait ici à plusieurs reprises, mais d'une certaine manière ils ont quand même permis de pas aggraver la situation. Son bilan de ce point de vue-là est pas si mauvais.
De ce point de vue-là, de la crise, il n'est pas si mauvais. La crise existentielle de l'Ukraine, et tout comme un autre versant de la crise existentielle de l'Ukraine, qui a été aussi en 2014 une faillite financière du pays. Il a eu une politique, pas simplement de boucher les trous, il y a eu une réforme assez sérieuse du secteur bancaire, des réformes du secteur gazier, qui est le plus grand trou noir financier du pays, des choses assez sérieuses, bien sûr.
Même si dans le Donbass, la situation est tout sauf gelée, vous le dites dans votre...
Je vais vous dire un chiffre simple, on parle de Minsk. Minsk, c'est 2015, depuis Minsk, qui est censé être une résolution globale, un cessez-le-feu et une résolution politique du conflit, il y a eu plus de morts, 7000, que avant la signature de Minsk, 6000 morts.
Merci beaucoup, Benoît Vidkine, d'être passé dans le studio. Je rappelle, journaliste au Monde, on peut retrouver l'ensemble de vos papiers sur le site du Monde.fr. Un grand merci à vous.
Люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа.
Allez, on quitte l'Ukraine pour prendre la direction du Soudan après la chute d'Omar el-Béchir. Où va le Soudan? C'est la question qu'on se pose ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Alors que depuis 4 mois, les Soudanais réclamaient pacifiquement la chute du régime, le président soudanais, arrivé au pouvoir en 89 par un coup d'État, a fini par démissionner hier sous la pression de l'armée.
J'annonce en tant que ministre de la Défense la chute du régime et le placement en détention dans un lieu sûr de son chef. J'annonce également la création d'un conseil militaire de transition chargé de gouverner le pays pendant 2 ans.
Voilà, la pression de la rue a été trop forte. Les interdictions, les arrestations et autres violences en tout genre n'étaient pas venues à bout de ce mouvement de contestation qui s'était progressivement transformé en révolution. Comment en est-on arrivé là? Comment comprendre que le régime qui avait pourtant si longtemps tenu se soit finalement effondré? Et que va-t-il se passer maintenant? Le départ d'Omar el-Béchir suffira-t-il à contenter les manifestants? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce conseil de transition mis en place par les militaires? Pour évoquer ces questions, Anne-Laure Mahé et Christian Delmé sont nos invités. Je vous remercie encore d'être avec nous ce matin. Marc Semo, notre partenaire du Monde. Marc, Omar el-Béchir au pouvoir depuis 1989. Il avait résisté à tout ou presque. L'islamisme politique avait cherché à prendre sa place à la fin des années 90. Les forces sécessionnistes du Sud, la Cour pénale internationale qui avait émis un mandat d'arrêt international contre lui pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité dans le cadre de la guerre au Darfour. Et là, finalement, après un mouvement de protestation sans précédent, c'est vrai, il démissionne, il ouvre la voie peut-être à une transition politique. On verra bien sûr à quoi peut mener cette transition, mais quand même, cette démission, elle est déjà en elle-même historique, Marc.
Absolument. Mais là, je vais faire un pas de côté, parce que le vrai test sera l'histoire, la question de la Cour pénale internationale. Un moins d'un an après avoir été renversé par la rue, Slobodan Milosevic, le président serbe, avait été transféré à La Haye sur ordre de nouvelles autorités réformistes. Alors qu'est-ce qui va en être pour Omar el-Béchir, qui était, tu le disais, le seul chef d'État en exercice sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour des crimes quand même aussi sérieux que génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Alors, ce n'est pas simplement une question de justice. C'est aussi un test de la crédibilité du Conseil militaire de transition et de ce que vont faire ces nouvelles autorités. On peut être sceptique, hein, l'actuel homme fort, on en parlait tout à l'heure, Awad Benwaf, qui était le ministre de la Défense, qui était le chef du renseignement militaire, et lui-même éclaboussé par les crimes commis au Darfour, mais en même temps, c'est aussi pour lui, ça peut être une tentation pour lui, de se racheter une conduite. En fait, cela dépendra en partie de l'ampleur de la pression que mettront les Occidentaux, les Nations Unies. On peut être sceptique aussi parce que on rappellera que les États-Unis ne sont pas partis au traité de la Cour pénale internationale et que Donald Trump n'est pas un fanatique de ce genre d'institution multilatérale.
Alors, on va commencer par un premier tour de table pour vous faire réagir aux événements d'hier. Christian Delmé, essayons de comprendre ce qui s'est passé hier. C'était quoi? C'était une démission? C'était un coup d'État? C'était la mise en place vraiment d'un processus de transition politique? Qu'est-ce qui s'est passé hier?
Écoutez, c'est assez compliqué parce que d'abord, qu'un patron de l'armée soit mis à l'écart, est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça de coup d'État alors que ses lieutenants restent au pouvoir? Est-ce que c'est un changement de régime? Pour l'instant, on ne voit pas le changement de régime. Il s'est passé que effectivement, il y a des négociations depuis pas mal de temps entre les Égyptiens, les militaires, les Américains sans doute et d'autres pour essayer de se sortir de ce mauvais pas. Le conseil de transition, le conseil militaire, n'a rien promis que, effectivement, de gouverner pendant 2 ans, et on verra après. Le cas semblable qui s'était produit en 84-85, c'est que les militaires qui avaient pris le pouvoir en chassant Néméri avaient promis de le lâcher et de donner les élections, et les élections avaient eu lieu en 86, ce qui avait permis à Sadiq El-Mahdi de devenir Premier ministre. 3 ans après, il partait, puisque Béchir arrivait, etc. Donc là, c'est assez confus. Il n'y a pas eu, sans doute, l'unanimité des militaires et des personnels des renseignements et des milices qui travaillent avec eux sur la conduite à tenir. Alors, on dit Béchir est en état d'arrestation, mais est-ce qu'il n'est pas protégé aussi? Il est sans doute dans le quartier général de l'armée.
Il est en sécurité. Il a été mis en sécurité.
Alors que ça veut dire sécurité? Est-ce que sécurité veut dire on va ne pas le lâcher, on va le filer à la Cour pénale? Ou est-ce que c'est vous n'êtes pas prêt de l'attraper parce qu'il est avec nous? On est ses potes quand même. Bon, moi, je serais plutôt, pour la deuxième option. D'autant que l'Union africaine, qui a comme son mot à dire, bon, même si c'est parfois assez velléitaire, est contre le passage de Béchir au tribunal de La Haye. Donc il y a un environnement local et régional qui fait que on n'est pas du tout prêt à penser que Béchir sera déféré comme ses collègues dictateurs d'autrefois ailleurs.
Anne-Laure Mahé, comment est-ce que vous voyez les événements qui se sont passés hier, la démission qui est en fait une démission forcée, on l'a vu, l'annonce de la mise en place de ce conseil de transition à la tête duquel se trouve le ministre de la Défense. Il y a aussi un autre élément que j'ai pas évoqué, mais il y a quand même, et ça c'est un fait peut-être, la libération d'un certain nombre de prisonniers politiques. Ça a été annoncé hier tout de suite après l'annonce de la démission. Donc est-ce qu'il faut y voir là effectivement un signe de bonne volonté ou est-ce que c'est juste de la communication et ça sert à faire passer l'idée du conseil de transition en manifestant?
Alors, selon moi, on est vraiment dans des changements à minima. Hein. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Christian Delmet. Hein. On a enlevé la tête qui était la plus gênante, Omar El-Béchir, qui était devenu un peu le symbole du régime, qui était, si on prend au bas mot, hein, la revendication des manifestants. On a effectivement libéré un certain nombre de prisonniers pour... En fait, selon moi, vraiment une tentative à minima de faire des modifications qui puissent calmer la rue, qui puissent également en fait venir justifier l'interdiction de futures manifestations, en fait, ou la répression de futures manifestations, en disant bah finalement on vous a donné ce que vous attendiez.
Il faut rentrer chez vous.
Exactement.
Vous pensez que c'est ça qui va arriver maintenant? On va faire de l'ordre, on va évacuer l'avenue et la place sur laquelle se sont mis maintenant les manifestants. Ils la lâchent plus hein, depuis maintenant plusieurs jours. C'est ça qui va se passer.
C'est la crainte. Hein. Apparemment, les manifestants ont quand même continué à faire leur sit-in toute la nuit, et même malgré le couvre-feu en fait, hein, qui avait été mis en place à 22h. Et donc, a priori, même si on a vu apparemment certaines encore des miliciens, des policiers, enfin, on ne sait jamais trop qui s'occupe de la répression, on a vu certaines personnes comme ça se positionner, mais pour l'instant, apparemment, ça a été quand même... Il y a eu un certain laisser-faire.
Jusqu'ici, la répression, c'était plutôt pas l'armée, précisément.
Ah oui, tout à fait. Hein? C'était en fait des sortes de milices soutenues par les services de renseignement à l'ENIS, des milices de potentiellement certains étudiants proches aussi du parti au pouvoir, du NCP, qui s'occupaient de gérer cette répression-là, effectivement.
Marc Semo.
Oui, parce que pour le moment, les manifestants ont surmonté la peur. Donc le problème aujourd'hui, finalement, si l'armée veut rétablir l'ordre, ça risque d'être quand même extrêmement violent. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement une dynamique qui s'est enclenchée, notamment, on parlait de Jean-Philippe Rémy tout à l'heure, dans ses reportages, qui parlait du rôle des femmes.
Le correspondant du Monde à Johannesburg, qui est en ce moment au Soudan.
Qui est en ce moment au Soudan, et qui parlait du rôle des femmes, des camps Dakar, qui semblent, dans tout ce mouvement, jouer à être en première ligne. Donc c'est quand même, au-delà de ce coup d'État qui n'en est pas un, ce passage de relais au sein des militaires au pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas malgré tout une dynamique de la société qui est en train de s'enclencher?
Christian Delmet.
Oui, bon, les femmes ont toujours été actives dans les révolutions soudanaises. Elles ont toujours été là. Ça date pas de Méroé, où il y avait des reines. Mais ça veut dire quoi? Qu'effectivement, les jeunes, les femmes qui sont aussi mobilisées font quand même un peu peur à l'armée. L'armée ne peut pas... C'est pas l'armée qui tirerait, ce seraient les forces de sécurité et les forces d'intervention rapide. On peut pas se permettre de tirer dans le tas. Ça, je pense que jamais. La nuit a été bonne. S'il y avait dû se passer des choses graves qui augureraient d'une précipitation vers vraiment la dictature absolue et l'absence de possibilité de négocier, ça serait passé cette nuit, à mon avis. Cette nuit, il ne s'est rien passé. À 4h du matin, tout le monde est encore là. Il n'y a pas eu d'intervention des milices et des forces de sécurité. Bon, les populations soudanaises qui mettent souvent longtemps à se soulever, à demander le changement, là, l'ont fait de façon absolument unique. Enfin, on n'a jamais vu ça dans l'histoire soudanaise. Mais elles sont... insatisfaite, c'est pas ce qu'elle voulait. Bon, Rachid Yacoub le disait hier. Bon, tout ça pour ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas passé tout ce temps à être mobilisé, on n'a pas viré Béchir pour voir les copains de Béchir continuer à gouverner le pays pendant 2 ans et on ne sait pas quoi faire après. Alors, ce qu'on peut craindre, c'est si c'est la fonction, si c'est la fraction dure des donnants du pouvoir qui l'emporte, on voit pas très bien comment ça pourrait se passer entre ces militaires et ces sécuritaires et l'alliance des professionnels du Soudan qui demande à rester mobilisé et qui veut un gouvernement de transition avec des civils. Alors avec des militaires, avec des civils et éventuellement avec des islamistes. On est prêt à tout, mais est-ce que l'armée va pouvoir faire une place à tout ce monde-là ? Et il y a une discussion au sein des appareils de répression à ce sujet.
Alors moi justement, je voudrais, pour poursuivre un petit peu sur ce que vous venez d'évoquer, Anne Lormey, comprendre justement ce que demandent clairement les manifestants. On entend dans votre bouche à l'un et à l'autre que finalement ce conseil de transition, il satisfait personne. On comprend aussi qu'évidemment les manifestants veulent participer à ce processus de transition. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils veulent ? À quoi ressemblerait une participation des civils pour qu'elle soit satisfaisante ?
Alors, il y a eu quand même l'association des professionnels soudanais a mis en place avec d'autres forces d'opposition. Ils ont signé ensemble une déclaration pour les libertés et le changement, dans laquelle ils expliquent précisément ce qu'ils veulent mettre en place. Et l'une des grandes revendications, c'est d'avoir la mise en place d'une transition menée par des civils compétents.
Et alors, ça veut dire quoi, des civils compétents ? Il y a des figures qui pourraient incarner justement cette compétence civile ?
Alors c'est évidemment toute la question, mais quelque chose qui est beaucoup revenu, c'est on veut finalement un gouvernement de technocrates, une transition menée par des technocrates qui vont faire face aux problèmes économiques, aux problèmes de développement du Soudan, pour permettre de remonter un petit peu la pente. Et effectivement, la question c'est qu'est-ce que vous mettez derrière la question de la compétence, etc. Ceci étant dit, c'est vrai que du côté politique, l'opposition, on n'a pas vraiment une grande figure qui émerge. On a quelques personnalités comme Omar El Diguer qui potentiellement sont plus jeunes que d'autres des anciens partis, des partis d'opposition historiques, hein, où on a certains leaders qui sont un petit peu âgés, etc. Mais ceci étant dit, au Soudan, on a quand même une population qui est éduquée, où on trouve tout un tas de gens qui sont reconnus, même au niveau régional, hein, pour leurs compétences dans le domaine de la santé. Les Soudanais, même si les conditions se sont un peu dégradées avec ce régime, les Soudanais étaient très très recherchés, sont partis en Arabie Saoudite, etc., dans le Golfe, pour occuper de tels postes. Donc, on a quand même un vivier de forces vives, de personnes compétentes dans la nation.
Alors, il y a la partie civile, Christian Delmet, mais il y a aussi la question islamiste. Je le disais tout à l'heure au moment de mon introduction, à la fin des années 90, Omar El-Béchir a dû faire face à la montée en puissance de l'islam politique qui a cherché à prendre le pouvoir. Il y a notamment Hassan Abdallah Al-Tourabi qui était le chef des frères musulmans qui était très présent. Alors voilà, Omar El-Béchir l'a habilement écarté. Mais est-ce qu'aujourd'hui il a des héritiers ? Quel est au fond le poids de ce mouvement frériste du côté du Soudan ? Et de façon plus générale, est-ce qu'il y a aujourd'hui un risque, je ne sais pas d'ailleurs s'il faut parler de risque, mais une option par laquelle, effectivement, l'islam politique pourrait s'imposer à l'issue de cette transition, si tant est qu'on ait une transition. Christian Delmet.
Dans l'état actuel des choses, ça me paraît impossible. Les islamistes n'ont pas retrouvé le leader qui était Tourabi. Il y a plusieurs petits partis qui sont proches des idéologies et des méthodes de gouvernement des islamistes d'autrefois, dont une vingtaine de députés autour de Razi Salah ed-Din al-Tabani qui ont démissionné du gouvernement en janvier. Il y a un rassemblement autour de Béchir de chefs musulmans, mais qui sont aussi des chefs de confrérie. Donc il y a des petites poches comme ça, des petits noyaux religieux, mais qui n'ont pour l'instant que très peu d'audience et qui n'ont aucune possibilité politique de faire ce qu'on pourrait, ce que vous venez d'imaginer. C'est pas maintenant.
Parce qu'il n'y aurait pas le soutien populaire derrière ?
C'est pas tellement ça, c'est qu'ils sont complètement désorganisés et puis qu'il y a les autres en face. La machine répressive soudanaise nouvelle, puisque soi-disant le régime est tombé, on a changé de régime, elle connaît tout, elle sait tout, elle sait tout arrêter. L'armée n'est plus celle d'il y a 30 ans. C'est... Non, la population et les organisations politiques et religieuses sont contrôlées. Donc qui dépasserait, qui voudrait faire un pas, serait complètement ramassé.
Marc Sémo.
Oui, parce que Omar El-Béchir avait fait montre d'un pragmatisme assez étonnant. C'est-à-dire, il était venu au pouvoir comme paravent d'El Tourabi. Il s'est retourné contre son mentor, il l'a éliminé. Ensuite, avec le 11 septembre, il est devenu collaborateur à fond des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme et l'axe du mal. Alors, est-ce que finalement, quelqu'un comme Awad Selouaf, qui est donc le ministre de la Défense, le nouvel homme fort, qui a été à l'école de Omar El-Béchir, ne pourrait pas montrer le même pragmatisme et justement accélérer les choses tout en tenant bien le système dans, en allant vers encore plus clairement vers les Américains et vers les Occidentaux.
Christian Delmet et puis Anne Lormey.
Bon, voilà le coup des... Vous savez, Tourabi avait créé une autre internationale islamiste en concurrence des deux autres qui existaient. Il y a eu 3 réunions à Khartoum dans les années 90. Il a eu le temps de prendre les adresses, les photos et tout. C'est pourquoi la coopération avec les Américains était si importante. Tout le dossier des islamistes autour de l'Afghanistan et de tout ça, c'est Tourabi qui l'avait. Bon, donc les Américains ont tombé sur l'occasion. Ça, la gauche était leur intermédiaire favori. C'est la gauche qui est venue aussi en France, hein, voir les polices françaises et autres. Donc la collaboration avec les Américains, elle date de cette affaire-là. Et elle n'est pas prête de s'interrompre. De toute façon, que les gens partent, que les régimes changent, les intérêts des nations et des politiciens seront toujours là. Les Américains sont là, au petit, la CIA, vous le savez, elle a le plus gros bureau en Afrique de l'Est, à Khartoum. Bon, donc les islamistes, donc pour finir, oui, on reviendra peut-être, mais ils sont pour l'instant hors circuit, et on peut pas imaginer que même les militaires et des islamistes cachés qui sortiraient s'ils étaient en difficulté.
Juste pour préciser la question, parce que finalement, dans ce grand conflit au sein du monde musulman, entre d'un côté le Qatar, la Turquie, donc liée aux frères musulmans, et de l'autre, cette espèce d'axe Arabie Saoudite, Émirats, Égypte, finalement, est-ce que maintenant, le Soudan prend-il encore plus clairement finalement sa place dans cet axe, aux côtés de l'Égypte, des Émirats arabes unis, et voilà.
Anne Lormaye, peut-être.
Ah ben, ça, le choix a été fait, je pense, quand Omar El-Béchir a décidé d'appuyer la coalition de l'Arabie Saoudite au Yémen, où il faut rappeler que les Soudanais sont quand même la chair à canon de l'Arabie Saoudite sur le terrain au Yémen. Ce sont eux qui sont en première ligne. Donc je pense que là, ils avaient, après avoir essayé pendant très longtemps de jouer sur les deux tableaux, ils s'étaient orientés davantage vers l'Arabie Saoudite. Ce qui n'empêche pas, quand on a vu les manifestations commencer, ça n'a pas empêché Omar El-Béchir d'aller quand même faire une petite tournée des différents partenaires possibles pour essayer de récupérer des financements et des appuis. On a toujours une politique, en fait, à essayer de jouer sur tous les tableaux, qui parfois s'est retourné contre le régime, mais clairement la décision a été prise d'aller un petit peu plus vers l'Arabie Saoudite, mais on voit quand même, on a quand même vu la Turquie appuyer le régime, etc. Donc finalement ça a toujours été un peu cette idée là mais pour revenir sur la question des islamistes, même si effectivement en 99 on a un schisme entre Tourabi et Béchir, avec Tourabi qui est mis en résidence surveillée, qui crée son propre parti, il n'en reste pas moins que la nature islamiste du régime est restée, et que la charia est restée, et que cette structure-là est restée. Donc on est dans un régime qui est pragmatique, qui n'est plus nécessairement géré par des islamistes aussi, convaincus que ça pouvait l'être au début, qui s'est plus orienté sur un agenda développementaliste à partir de 99. Et 99, c'est aussi la date où on commence à exploiter le pétrole, en fait. Il n'y a pas vraiment de hasard. Mais cette nature islamiste du régime, elle reste. Et le NCP, le parti au pouvoir, reste quand même... ça reste quand même des islamistes, même s'ils sont plus pragmatiques. Et dans les réactions qu'on a eues de la part de l'association des professionnels soudanais, des manifestants, c'est on est contre cette nouvelle itération finalement d'un régime qui est toujours militaro-islamiste.
Allez, place à notre association avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs du monde entier. Le vendredi, on sélectionne un dessin en fonction évidemment de l'actualité qu'on a retenue. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon vieux.
Assis.
Bonjour Mélanie Chalandon.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Et alors ce matin, évidemment, j'allais dire, portrait d'une jeune femme devenue en quelques jours une icône de cette révolution soudanaise.
Et oui, difficile de passer à côté de cette photo prise le 8 avril dernier et qui en quelques heures a fait le tour de la planète média. Il s'agit d'une jeune femme debout sur le toit d'une voiture au milieu des manifestants. On la voit, car il y a aussi une vidéo, chanter et haranguer la foule avec force. Ala Salah, c'est son nom, est une étudiante âgée de 22 ans, gratifiée désormais du titre d'icône, voire d'égérie de la révolution, rien que ça. Il faut dire que l'image est saisissante, et la voici reprise dans un dessin de presse. Le portrait est signé Annie Abbas, un dessinateur syrien, lui-même très engagé dans la révolution de son pays et actuellement réfugié en Suisse, où il a été contraint de fuir. Abbas est resté très fidèle à la photo qui a fait le tour du monde. Ala Salah y est représentée exactement dans la même posture. Elle se tient droite et fière, son visage de profil, une main posée sur son ventre, l'autre bras tendu et le doigt levé comme si elle invoquait le ciel. Il a dessiné bien sûr sa longue tunique blanche et ce léger voile qui lui couvre en partie les cheveux, sans oublier ses boucles d'oreilles dorées dans lesquelles se reflète la lumière et qui accrochent tout de suite le regard. Il y a quelque chose d'une apparition dans cette tenue et cette posture. Et d'ailleurs, la presse n'a pas manqué de comparer Ala Salah à certaines figures antiques de l'histoire soudanaise, les reines nubiennes du royaume de Kush, une reine puissante qui, de son bras levé, vient percuter la statue du président Omar el-Béchir placée juste à côté. Et voilà que le dictateur, représenté avec son bâton à la main, symbole de la répression, s'écroule. Ala Salah ne semble pourtant faire aucun effort. Il y a dans son bras une force, on le devine, immense, celle de la rue tout entière. Un portrait qui nous rappelle aussi, vous en parliez, le rôle des femmes dans ce mouvement de révolte, leur présence et leur engagement essentiel dans les manifestations. Et ce, malgré l'oppression et les inégalités dont elles font l'objet quotidien au Soudan. Les femmes soudanaises ont toujours participé aux révolutions dans ce pays. Cela fait partie de notre héritage, a déclaré Ala Salah à l'AFP. Et d'encourager ensuite sur Twitter les femmes à descendre nombreuses dans la rue. Faisons tomber ce tyran, la victoire est à nous, écrivait-elle le 10 avril. Et bien ça y est, sur le dessin comme dans la réalité, le tyran est tombé. Pas sûr néanmoins que la victoire soit acquise.
Merci beaucoup Mélanie Chalandon. On diffuse bien sûr le dessin sur les réseaux sociaux, sur le fil Twitter, le compte Facebook, le site bien sûr de franceculture.fr. Anne-Laure Mahé, on ne vous a pas entendu sur la question des femmes. Christian Delmet en a dit tout à l'heure un mot, vous non pas encore. C'est vrai qu'effectivement, cette femme c'est devenu l'icône de la révolution. On a beaucoup parlé de leur engagement, alors soit il est historique, mais peut-être aussi inédit, nous disait tout à l'heure Christian Delmet. Un mot là-dessus et peut-être sur la presse, c'est-à-dire qu'effectivement, on les a vus très engagés dans ce mouvement-là. Quel rôle est-ce qu'elle pourra avoir ensuite dans la transition?
Alors moi, je ne travaille absolument pas sur les femmes au Soudan, hein, donc je vais simplement répéter également ce qu'a dit Christian Delmet. Hein, on sait que elles ont été présentes en 64, en 85. Elles sont présentes dans la société, dans la société civile, elles sont assez actives dans tout un tas d'ONG, d'organisations. Dans les précédents mouvements qu'il y avait eu, par exemple autour de 2011, il y avait le mouvement Grifna, Change Now, elles étaient également extrêmement présentes. En 2013, un autre mouvement qui s'appelait le mouvement Nafir, qui étaient venues en aide aux victimes des inondations à l'époque, elles étaient également extrêmement présentes. Donc finalement, je pense qu'une question à se poser, c'est pourquoi on est si surpris hein, de voir leur présence sur les images. Elles sont les revendications sur la place des femmes sont dans cette déclaration qui a été faite par l'association des professionnels soudanais puis les partis alliés. La question qui se pose de toute façon. Alors là, c'est certain qu'avec ce conseil militaire, on se demande un petit peu que va-t-il arriver de ces revendications. Elles sont un peu, elles ne sont clairement pas. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout ce qui a été demandé, qui est mis en place. Mais de façon générale, il arrive quand même régulièrement que dans ce type de mouvement, les revendications centrées sur les femmes, les revendications féministes, soient mise de second plan, présentée comme quelque chose de secondaire et de s'occuper de problèmes plus importants avant cela.
Christian Delmet, réaction sur ce dessin?
Oui.
Rapprochez-vous
oui.
Du micro, un petit peu.
Oui, bien sûr, bon, ça rappelle ce qu'on trouve sur les monuments méroïtiques dans la vallée soudanaise. Bon, les rôles des femmes dans l'avenir, vous avez déjà un petit exemple de ce que ça peut être. La fille de Sadegh El Mahdi est porte-parole et presque, je crois, vice-présidente du parti Oumma. Que dans la famille d'un chef religieux qui tient son pouvoir de l'ancêtre El Mahdi, qui a chassé les turco-égyptiens de son pays à la fin du 19e siècle, c'est symbolique. Et je me souviens, vous avez au Parti communiste des gens très célèbres, des femmes très célèbres, bon, à l'université, bon, évidemment, elles ont une place importante, et y compris, pas seulement des strabonzins, dans la vie politique. Donc, est-ce que là, ça va être le bouleversement de la vie des femmes? Probablement pas. Vous avez bien fait, Flore, de rappeler la tendance, la constante religieuse du Soudan. D'ailleurs, on n'a pas entendu parler de religion là dans ces manifestations. Est-ce qu'on demande l'abandon de la charia ?
C'est pas un sujet.
C'est pas un sujet. La place de l'islam dans les populations sudanaises ne pose pas de problème. Elle pose problème quand on introduit, sans les avoir bien compris, les châtiments houdoud dans le code pénal. Mmh. Les châtiments corporels, c'était ça le problème. Mais le Soudan est prêt à vivre, les Soudanais sont prêts à vivre dans une société avec plusieurs, bien sûr, religions et plusieurs codes civils. Bien sûr, il faut exclure les châtiments corporels du code pénal. Mais c'est ce qu'il faut savoir. Là, on n'a pas du tout. C'est pas la religion, c'est pas la place des femmes, c'est pas la place de la religion qui compte. C'est la démocratie et la place doit être faite pour tous dans le nouveau pouvoir.
Par contre, ce que montre très bien cette crise politique, c'est une certaine difficulté, disons, à construire cet État soudanais. Depuis, au fond, l'indépendance, on voit qu'il y a eu très régulièrement des coups d'État, vous l'avez un peu évoqué. Il y a évidemment des luttes internes au pouvoir très importantes. Vous parlez tout à l'heure du Parti communiste entre marxistes et non-marxistes, ça a été terrible. Il y a cette question aussi de la montée en puissance des islamistes. Il y a ces mouvements indépendants sécessionnistes qui quand même ont conduit tout simplement à la partition du territoire, hein, puisque avec le Soudan du Sud qui prend son envol en 2011 après un référendum. Au fond, si on essaye de remonter un peu l'histoire, comment comprendre cette difficulté à construire la nation soudanaise ? Il y a, j'imagine, une part de l'héritage de la politique coloniale britannique, mais il y a aussi évidemment des choix politiques qui ont été faits derrière, peut-être, ou qui n'ont pas été faits précisément, je pense par exemple au fédéralisme, qui peuvent peut-être expliquer la crise d'aujourd'hui. Anne-Laure Mahé.
Ah oui, alors là on est sur un enjeu qui est central et qui n'a peut-être pas été très abordé en fait quand on parlait des manifestations, qui est que l'État soudanais est quand même construit sur l'État soudanais post-colonial, est quand même construit sur la domination d'une élite qui vient de ce qu'on appelle les régions riveraines, aux alentours du Nil et centrée sur Khartoum. Et en fait, ce sont évidemment des élites qui ont été favorisées, en fait, créées, pas nécessairement complètement créées, hein, mais favorisées, construites pendant la période coloniale, notamment par les Britanniques, qui avaient une vision assez binaire des choses, entre d'un côté les Arabes, qui étaient censés être un peu mieux éduqués, etc., et les Africains, qui, eux, étaient censés moins être plus rebelles, etc., etc. Et donc, les Anglais avaient quelque peu coopté cette élite riveraine, etc., et c'est eux qui prennent le pouvoir à l'indépendance en 56. Et en fait, ce sont les mêmes, hein, qu'on retrouve et qui sont toujours au pouvoir, et quand on voit Sadiq El-Mahdi, c'est aussi le symbole de cette domination-là.
Et c'est aussi eux, Christian Delmay, qui refusent cette option fédéraliste qu'on envisage en fait assez tôt après l'indépendance et que finalement on va balayer.
Avant l'indépendance, les gens du Sud disaient « nous on est d'accord pour avoir l'indépendance, mais sous un système fédéral », ce qui n'a pas été accordé, la guerre a repris le jour même de l'indépendance. Bon, la centralisation, elle est effectivement liée à cette espèce d'idéologie politico-religieuse des gens de la vallée du Nil. Là, une petite remarque, c'est que au début, c'est les gens du Nil vers l'Égypte, c'était des Dongolawi qui avaient tenu le pouvoir. Là, on a deux tribus qui se partagent les affaires. C'est les Garéines et les Chaéguia, qui sont des populations plus proches du centre du Soudan. Et on a vu que les postes, les affaires sont réparties selon ces deux populations dominantes actuellement. Bon, Tourabi avait essayé, lui.
Cette question-là est encore une question aujourd'hui, cette question du partage du pouvoir en fonction, effectivement, des ethnies, des clans, des tribus. Mais c'est toujours une question aujourd'hui, on ne l'a pas entendu.
Comme ça. Là, il y a eu un renouvellement des élites, qui est le mouvement de captation et de cooptation s'est rapproché de Khartoum. Les Nubiens ont cédé la place aux Arabes Yalin et aux Chaguiens, qui sont des gens qui autrefois avaient été accusés de collusion avec les Égyptiens. Bon, mais le problème de la construction de l'État qui est toujours sous une constitution provisoire. Le Soudan n'a pas encore de constitution permanente.
Et aujourd'hui suspendue par ailleurs.
Voilà, celle donc qui était de toute provisoire. Façon, les Soudanais vivent sans constitution permanente depuis des dizaines d'années. Bon, la place des périphéries dans l'appareil politique, tout comme dans l'économie, a été complètement, pas seulement rejetée, mais évacuée, mais même volontairement ignorée.
C'est une question qu'il va falloir remettre sur le devant de la scène, fatalement, Anne-Lormaye.
Oui, enfin, c'est une question qui se pose de toute façon au Soudan, et c'est une question qui s'est posée pendant le mouvement. Moi, je me souviens au début avoir entendu certaines personnes des Darfouris qui disaient, mais en fait, c'est bien gentil ce mouvement, mais nous, quand on se faisait tuer, il n'y avait pas grand monde qui se mobilisait à Khartoum. Et y compris à Khartoum, hein, les étudiants darfouris sont vraiment victimes de répression, etc. Donc, c'est une question qui est importante. Et je voudrais aussi ajouter que cette politique par rapport aux périphéries marginalisées, c'est une politique qui a été pensée et conçue comme telle de façon extrêmement explicite. Et vous aviez dans les années 90 un ministre qui s'appelait Hamdi, qui avait mis en place cette idée qui est devenue connue sous le nom de triangle de Hamdi, avec ciblé autour de Khartoum, les villes entre le nord d'Ongola, la ville d'El Obeid à l'ouest. Et en fait, l'idée, c'était que les régions importantes pour le régime et pour le pays, c'était des régions qui étaient situées à une heure de voiture, au maximum, de Khartoum. En incluant peut-être potentiellement Port-Soudan, qui est le seul port du pays. Ça a été réitéré lors d'un congrès, peu avant l'indépendance du Sud-Soudan, il me semble me rappeler en disant que finalement c'était sur cette région-là qu'il fallait que le régime insiste, et là que sont les votes, que sont le soutien. Et donc tout ça pour dire que c'est vraiment une politique qui a été voulue et pensée comme telle.
Magnifique voix que celle de cette chanteuse soudanaise Racha, avec ce titre Léali. On mettra évidemment en référence sur le site de Culture Monde. Un grand merci à nos deux invités, Christian Delmet, Anne-Laure Mahé, d'avoir été avec nous ce matin, nous avoir éclairé sur ce qui est en train de se passer en ce moment au Soudan. Je rappelle, Christian Delmet, que vous êtes chercheur associé au Centre d'études des mondes africains, et vous, Anne-Laure Mahé, que vous êtes chercheuse Afrique de l'Est à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Un grand merci à tous les deux. Cher Marc Semo, merci aussi, notre partenaire du Monde le vendredi. On se retrouve la semaine prochaine, Marc.
Eh bien oui.
Eh bien, pour l'heure, 11h53, c'est Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et on poursuit votre série consacrée à Marlène Dietrich. Vous disiez hier que le grand amour de Marlène, c'était Gabin, bien sûr. Sur quel élément se fonde son biographe Jean-Paul Bled pour l'affirmer?
Jean Gabin, grosse vedette du cinéma d'avant-guerre, Quai des Brumes, Pépé le Moko, a rejoint Hollywood pour fuir la France de Vichy, dont la lâcheté le dégoûtait. Il se précipita dans les bras de ma mère comme un navire égaré qui trouve son port d'attache, écrit Maria Riva, la fille de Marlène, dans ses mémoires. Elle l'installe à côté de sa propre villa. Elle lui cuisine des petits plats de son pays pour lui faire passer le spleen. Veau pané, pot-au-feu, il est le seul de ses amants qu'elle se dit prête à épouser. Mais lors de la bataille des Ardennes, elle fait la connaissance du plus jeune et du plus séduisant général de l'armée américaine, celui que ses noms surnommaient Skin Jim, comme dans la chanson d'Eddie Cochran, James Gavin. C'est lui qui commandait le 505e régiment de parachutistes qui sauta sur Sainte-Mère-Église lors du débarquement. Jean Gabin, de son côté, s'est enrôlé dans les forces de la France libre comme simple sous-officier. Il finira d'ailleurs chef de char dans la 2e DB, participant au combat pour la libération de Royan, La Rochelle, Saint-Nazaire et Lorient. Il fait partie du bataillon qui prendra le nid d'aigle d'Hitler après le suicide du dictateur dans les ruines de Berlin. Et Gabin est très jaloux. Pourtant, après la guerre, les deux amants tentent de relancer ensemble leur carrière en France, où la presse annonce que la fameuse Marlène Dietrich songe s'établir pour de bon. Dans Martin Roumaniac, un film assez médiocre réalisé par Georges Lacombe, Gabin joue le rôle d'un brave entrepreneur en travaux publics qui tombe amoureux d'une jolie cliente étrangère, jouée donc par Marlène. Il la prend pour une femme du monde, mais découvrant qu'elle a un passé de prostituée, il l'étrangle. Le film fait un bide. Marlène déclare que sa carrière l'appelle aux États-Unis. Elle n'épousera pas Jean Gabin, mais lorsqu'il mourut en 1976, elle se déclara veuve. Alors qu'on la croyait finie, elle a dépassé l'âge fatidique de 45 ans, elle fait un comeback éblouissant dans un film de Billy Wilder, La Scandaleuse de Berlin. Elle s'est fait beaucoup prier pour jouer le rôle d'une ancienne nazie qui est parvenue à échapper à la dénazification en obtenant la protection d'un capitaine américain. Mais elle reprend pour ce film son emploi de chanteuse de cabaret, d'enjôleuse et de fatale séductrice, celui qui lui avait valu la gloire 18 ans plus tôt dans L'Ange Bleu. Billy Wilder a tourné plusieurs scènes d'extérieur dans le Berlin de l'époque, en grande partie détruit par les bombardements et les combats de 1945, et le pianiste qui accompagne Marlène durant son tour de chant n'est autre que Frédéric Hollander, le compositeur qui avait déjà composé pour Marlène les chansons qu'elle interprétait dans L'Ange Bleu. Avec les chansons de La Scandaleuse de Berlin, Hollander, avec donc les chansons Black Market et Illusions, Hollander résume l'état d'esprit qui régnait à Berlin 3 ans après la fin de la guerre. Want to buy some illusions? Slightly used, just like new.
I'll sell them all for a penny. They make pretty souvenirs. Take my lovely illusions. Some for laughs, some for tears.
Et alors, quels étaient, Brice, les rapports de Marlène Dietrich avec son pays natal après la guerre?
Eh ben, franchement, mauvais. Lorsqu'à 60 ans, elle renonce au cinéma pour s'en aller promener son tour de chant sur toutes les scènes du monde, il était inévitable que l'escale allemande soit au programme. En mai 1960, le Bild Zeitung publie des lettres de lecteurs qui toutes la condamnent comme traîtresse à son pays. Dans les 17 villes allemandes où elle doit chanter apparaissent des affiches proclamant « Marlène, go home ». À Düsseldorf, on lui crache dessus. Et sa tournée se termine devant des salles à demi vides. Le futur chancelier Willy Brandt, alors maire de Berlin-Ouest, sauve l'honneur en la recevant avec tous les honneurs possibles à la mairie. Lui-même, il a combattu dans la résistance anti-nazie en Norvège, il est donc bien placé pour comprendre et approuver les choix de sa compatriote. Dans son dernier grand film, Jugement à Nuremberg, réalisé par Stanley Kramer en 1961, elle interprète un rôle délicat, ma foi. La veuve d'un général de la Wehrmacht qui défend la mémoire de son défunt mari et tente de persuader les juges américains que les Allemands n'ont pas tous été des monstres. Un rôle d'aristocrate, arrogante et désabusée qui lui va à ravir, mais dont Jean Bolpley, donc son biographe, souligne qu'il ne correspondait nullement à ses propres opinions. Pour Marlène, ni l'armée allemande, ni la population civile ne pouvaient ignorer le sort des compatriotes que la police venait arrêter au petit matin, et elle l'a dit. Détail révélateur qui vous amusera, durant toutes ses tournées internationales du début des années 60, l'accompagne son arrangeur musical personnel, un certain Burt Bacharach, eh oui, le compositeur de Don't Make Me Over et Walk On By pour Dionne Warwick et de What's New Pussycat pour Tom Jones et puis de tant d'autres succès planétaires. Marlène Dietrich, perfectionniste, a toujours su dénicher les meilleurs talents du moment. Cette nouvelle biographie de Marlène par le germaniste Jean-Paul Bled vient donc de paraître chez Perrin.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette plongée toute cette semaine dans le monde de Marlène. C'était un plaisir. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.